une manufacture d'idées qui a ses locaux dans un espace ouvert, en travail collaboratif, une expérience qui est consignée dans un livre qui sort en ce moment. Wow, beaucoup de concepts mélangés. Ça ressemble un peu à notre invité de ce soir. À 30 ans, il est le fondateur de Think to Make, le co-auteur d'un ouvrage qui vient de sortir sur l'innovation collaborative et le créateur et gestionnaire d'un espace de coworking à Neuchâtel. Rien que ça. On se retrouve dans cet open space, une grande table, une vieille machine à écrire en décoration et on discute. L'homme est attentif, curieux aussi. Il pose des questions sur la radio. Je dois presque lui rappeler qu'on est là pour parler de lui et que c'est moi qui les pose, les questions. En voyant sa carte de visite, on pourrait imaginer quelqu'un de volage, quelqu'un d'aérien qui passe d'un projet à l'autre, d'un sujet à l'autre. C'est tout le contraire. Il semble minutieux, prend des notes, dessine des schémas en discutant. Vous ne les verrez pas, mais vous allez l'entendre. Bonsoir, Sedat Adiyaman.
Bonsoir, Cédric.
Vous êtes le fondateur de la société Think to Make. Vous êtes aussi fondateur du coworking dans lequel vous nous accueillez aujourd'hui. Vous êtes auteur de l'ouvrage Faire, innover de façon collaborative, trois casquettes alors que vous avez 30 ans. Qu'est-ce qui, dans votre parcours, a fait que vous vous intéressiez à ces questions ?
La curiosité, je crois. Commençons par le commencement. Je suis d'origine turque et kurde. J'ai grandi en Allemagne et j'ai fait ma scolarité ici en Suisse. J'ai fait de la conception industrielle. Ensuite, j'ai travaillé dans l'industrie. Une formation supérieure dans les processus d'entreprise. J'ai touché à plusieurs cultures et à plusieurs domaines.
Mais à la base, une formation très technique. On est loin de la créativité.
Je crois que la technique est très créative et ça laisse énormément d'ouverture, la science d'imaginer des choses. Et la conception industrielle, oui, ça aide effectivement. Et puis aussi gérer des processus, gérer le fonctionnement même d'une machine, ça peut être très très créatif.
Aujourd'hui, c'est cette expérience que vous avez dans les machines, dans le dessin, elle vous apporte quoi ?
Alors, je pense qu'avant ma formation, comme je disais, c'est la curiosité, la capacité à imaginer de nouvelles choses, de nouvelles solutions. Et ensuite, évidemment, la structure plutôt industrielle, la structure du travail et la discipline peuvent aider à concevoir quelque chose de nouveau. Donc, ça m'a aidé en fait à créer une manière de travailler qui est très structurée.
Alors ce virage, l'entrepreneuriat, décider de monter son entreprise, ça s'est amorcé comment ?
Simplement par une conférence. J'étais allé voir un entrepreneur et en l'occurrence, c'était à l'époque la société Colorix, qui est, je crois, bien connue dans la région, et qui m'a donné envie de découvrir davantage l'entrepreneuriat et surtout l'innovation. C'est comme ça que ça s'est lancé.
Think to Make, les premiers pas, ça s'est passé comment ? C'était difficile au début ? C'est difficile de lancer sa boîte ?
Oui, bien sûr, c'est pas facile. Ça s'est fait assez naturellement. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont aidé. J'ai passé beaucoup de temps aussi à comprendre ce que les gens avaient besoin. Évidemment, j'ai fait des bêtises, ça va de soi.
Quelques exemples ?
Ah oui, alors bien sûr, je me suis intéressé par exemple à des domaines dont je ne comprenais pas toujours très bien le contenu. Mais je crois que c'était l'inconvénient parfois de la curiosité aussi, de s'intéresser à beaucoup de choses. Et c'était pas si bête que ça finalement, parce que ça m'a aussi aidé à comprendre d'autres manières de travailler que j'ai pu apporter à mon domaine de travail.
C'est en faisant des erreurs qu'on apprend aussi.
C'est exactement ça. Et qu'on innove aussi.
Se lancer à 25 ans, c'est quand même un certain risque par rapport au fait d'être salarié, qui apporte un certain confort. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre ce risque ?
Je ne sais pas si j'ai vraiment beaucoup réfléchi à tous les risques. Je crois que mon intérêt pour l'entrepreneuriat est né beaucoup plus tôt. Donc j'avais 22 ans, 23 ans. Donc c'est venu assez naturellement et je crois que j'ai juste suivi quelque chose qui me donnait envie. Peut-être que maintenant, si je le faisais maintenant, je le ferais différemment. Je prendrais plus le temps aussi à le créer ou à me lancer. Mais à 22-23 ans, c'est plutôt très naturel. Et le risque, on le mesure, mais on est plus peut-être émotionnel. Et on suit plus le chemin où on sent que ça, c'est le bon chemin.
Ce que vous cherchez, c'est l'autonomie, ne pas avoir de patron ou la liberté. Qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui ?
Alors, c'était pas vraiment ça, parce que j'aimais plutôt bien mon travail et j'aimais beaucoup aussi les responsables, la direction, mes collègues. Donc, non, je crois que c'était uniquement le fait d'être plus direct avec la valeur que je délivrais aux autres. Donc, être plus conscient, voir plus rapidement ce que je peux apporter aux autres, ce que peut-être je le voyais pas assez avant.
Cette entreprise que vous avez lancée, Think to Make, manufacture d'idées, ça veut dire quoi? C'est quoi une manufacture d'idées?
Une manufacture d'idées, c'est de lier donc la manufacture, on va dire le faire, avec les idées, donc le penser. Donc c'est de lier les pensées au faire, à la concrétisation. Et on s'est inspiré de ce terme de la manufacture pour aussi dire une approche plutôt organisée, structurée, et où on empoigne les choses, donc manufacturées, donc qu'on prend en main.
Aujourd'hui, très concrètement, qu'est-ce que vous apportez à vos clients?
On apporte des idées, on apporte des solutions qui contournent la manière de penser traditionnelle ou on va dire le mainstream pour donner un nom américain comme ça. Notre approche part souvent de deux points, c'est où il y a un problème, donc et qu'il faut contourner ce problème et trouver une solution. Où il y a une vision de la part du client et que pour arriver à cette vision, on va l'aider à construire les différents steps, les différentes étapes pour concrétiser, donc manufacturer sa vision.
On va vous aider à trouver des idées. C'est un message facile à faire passer, surtout au début, quand on cherche des clients.
Alors au début, non, mais pas par rapport à des clients ou aux autres, mais par rapport à soi-même, parce que le projet est en constante construction, donc il faut l'amener de manière le plus concrète, le plus simple auprès des autres. Et souvent, je crois que c'est pas qu'il manque des idées, mais c'est de savoir exactement le sujet qu'il faut traiter, donc d'identifier la cause et trouver la bonne solution à cette cause-là.
Mais du point de vue du marché, démarcher des clients, leur disant on va vous aider à trouver des idées, ça c'est y a une demande.
Aider les autres, il y en a toujours. Aider les clients.
C'est pas un peu flou pour les entreprises de se dire mais oui, bon, qu'est-ce qu'ils vont m'apporter concrètement?
Alors ça peut l'être si on a une casquette un petit peu dans les nuages, mais avec une approche plutôt très industrielle et d'ingénierie, c'est plutôt très concret.
Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez beaucoup intéressé notamment au brainstorming. Brainstorming, on en a à toutes les sauces, dans toutes les entreprises. C'est quoi pour vous une bonne méthode de brainstorming?
Une bonne méthode de brainstorming, c'est d'éviter de tout de suite chercher des idées. C'est de définir, comme je disais avant, à la cause, l'élément, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous le cahier des charges, quelque chose qu'on a identifié et qu'on a passé suffisamment de temps, parce qu'on a une tendance très naturelle à agir et pas à prendre le temps de penser.
Donc, se réunir autour d'une table, tout le monde dit ce qu'il pense pour trouver des solutions, c'est trop rapide. C'est pas comme ça qu'on devrait amorcer un brainstorming.
Ça peut l'être, ça dépend dans quelle phase on se trouve. Peut-être la première phase, c'est d'observer, de questionner et pas de trouver tout de suite une idée.
Ici, vous nous accueillez dans un espace de coworking à Neuchâtel, à la rue des Sablons. Comment il a été créé cet espace?
Autour d'un café.
Comme beaucoup de bonnes idées.
Peut-être. Je ne suis pas un défenseur des cafés, mais. Ça s'est fait très naturellement. Je me suis retrouvé avec une personne qui, comme moi, avec son ordinateur, en train de travailler et boire un café. Et on a discuté du coworking. Et 2 jours après, on a lancé le projet.
Il y a une salle de réunion, une autre salle un petit peu plus grande. N'importe qui peut venir n'importe quand. Comment ça marche?
N'importe qui, je dirais oui et non. C'est uniquement pour des professionnels. Donc, c'est des personnes qui cherchent un espace de travail. Ou un espace de réunion pour travailler ou pour leur entreprise, pour leurs clients, pour leurs partenaires. Et les personnes prennent un abonnement et ils peuvent accéder à l'espace quand ils en ont besoin, tout simplement.
Il n'avait pas d'abonnement, mais vous avez quand même accueilli Joël Picromel, s'y est rendu pour rencontrer les utilisateurs de cet espace et voir ce qu'ils y cherchaient.
Sortie de boîte.
On
on est tous dans des secteurs d'activité complètement différents, c'est ça qui est intéressant. Mais finalement, on a plein de choses en commun. Parce que, par exemple, rédiger une offre commerciale, qu'il s'agisse d'une société A, B ou C, d'échanger des structures de ses propositions, par exemple, ou d'échanger des instruments de travail qui vont du tableur Excel jusqu'aux dernières applications web qu'on a pu trouver sur le marché, c'est quelque chose qui est très important. Donc on n'a pas besoin d'être dans le même secteur pour pouvoir s'aider beaucoup. Finalement, le point commun de tous ces clients de coworking à Neuchâtel, on est tous des chefs d'entreprise. Et ça, c'est une racine ou un point commun qui est extrêmement important et qui nous permet beaucoup d'échanges sur beaucoup de choses. On a tous des comptabilités à faire, tous des reportings divers et variés à faire à nos actionnaires, que donc on a vraiment beaucoup d'échanges à avoir et effectivement nous échanger des contacts. La Suisse romande reste très petite, on finit par se connaître tous en se mettant 5 ou 6 autour d'une table.
Je m'appelle Kieran Walters, je suis directeur de Okapi Coffee, qui est un jeune torréfacteur artisanal.
Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le fait de venir travailler ici?
J'étais à la recherche d'un espace où je pouvais venir travailler en ville de manière flexible. Des fois, c'est 2 heures par jour, des fois, c'est des journées entières. Et également, c'est un endroit où on peut avoir des rendez-vous avec des clients qui n'est également pas à la maison. Un espace de coworking, ça amène justement une flexibilité sur le nombre de bureaux, sur l'espace, sur un bail qui n'est pas de 10 ans. Et c'est très important pour jeunes entreprises ou même moins jeunes d'avoir cette flexibilité. Après, je pense que c'est justement ce côté sociable et de réseau qui est très, très intéressant pour les entrepreneurs. Pour donner l'exemple, la personne qui fait notre web design est également au coworking ici. J'ai rencontré au moins 3 ou 4 nouveaux clients parmi les personnes qui figurent sur la liste de coworkers. En ce moment, on travaille sur une campagne de crowdfunding qui va être mise en ligne cette semaine. Et là, justement, j'ai pu parler à plusieurs de nos coworkers de leurs expériences là-dedans, de comment planifier la communication. J'ai trouvé la personne qui a fait notre vidéo pour le campagne de financement par le biais d'un collègue ici. Enfin, il y a vraiment tout qui se passe en réseau comme ça. Si j'étais soit à la maison, soit en bureau fixe, ce ne serait pas le cas. Là, je devrais vraiment aller chercher plus loin pour trouver chacun de ces contacts, tandis que là, ça se passe vraiment autour des discussions, autour des cafés.
Sortie de boîte. De retour avec notre invité, Sedat Adiyaman, fondateur de Think2Make, du coworking à Neuchâtel, et un auteur également, on va en parler. Aujourd'hui, qui est intéressé à faire du coworking?
Beaucoup de professionnels, c'est des entrepreneurs, des indépendants, des freelancers, parfois même des étudiants. C'est également des entrepreneurs, c'est-à-dire des entreprises qui veulent typiquement domicilier leur entreprise ici et faire une réunion, enfin avoir la possibilité de faire des réunions. Et toute personne qui cherche un endroit suffisamment studieux, mais pas trop non plus.
Ce qu'on cherche quand on cherche un coworking, c'est un espace à moindre frais, c'est ça? C'est pour partager les frais essentiellement, la motivation principale?
Alors, il y a la pyramide de la motivation du coworker que j'ai définie il n'y a pas longtemps. Et effectivement, il y a un des premiers besoins, on va dire, c'est le besoin primaire, c'est avoir un espace de travail, pouvoir venir travailler à un tarif qui soit très abordable. Et ensuite, dans les motivations secondaires, c'est la possibilité de rencontrer d'autres personnes, échanger avec d'autres personnes, avoir un environnement qui soit stimulant. Et tertiaire, la motivation tertiaire, c'est la possibilité d'aller au-delà de juste échanger et de travailler, mais de pouvoir construire quelque chose avec les autres.
Ça, concrètement, ça arrive, ça se passe?
Ça se passe. Des personnes se sont rencontrées ici et se sont entraidées pour créer quelque chose de commun ou qui ont donné des aides mutuelles. C'est aussi arrivé où des personnes trouvent des clients. Ça peut arriver, c'est pas le but premier, c'est pas que les personnes doivent ouvrir la porte et chercher des clients, les gens viennent pour travailler, mais avec le temps, les relations se construisent et on comprend mieux les besoins de chacun et on peut s'entraider.
Vous, en tant que gestionnaire de l'espace, est-ce que vous pouvez faire des choses pour favoriser ces échanges ou ça se fait tout seul?
Je crois que ça se fait naturellement, si ça se fait, ça se fait. On essaye évidemment que les gens puissent se rencontrer plus facilement, plus simplement, avec typiquement des moyens d'échange tels que des groupes WhatsApp ou des emails ou des rencontres, prendre un café ensemble peuvent aider, oui, bien sûr.
Il y a un groupe WhatsApp des coworkers.
Il y a un groupe WhatsApp des coworkers, oui.
Et il s'y passe quoi dessus ?
Alors, ça dépend les jours. Il y a des jours où c'est plutôt très, très calme. Et quand il y a des informations importantes, ben, on les envoie depuis le groupe. Et si on organise un barbecue ou une rencontre ou un café ou une bière, on communique là-dessus.
L'avenir du coworking, on en voit de plus en plus. Pour vous, ici, vous cherchez à vous développer ?
On aimerait bien. On aimerait beaucoup. C'est une question, je pense, de taille critique qu'il faut de temps.
Une autre de vos casquettes, c'est celle d'auteur. Un livre vient de sortir, un ouvrage qui s'appelle « Faire, comment innover de façon collaborative ». Très bonne question, ça. Comment innover de façon collaborative ?
Comment innover de façon collaborative ? Alors, le titre répond, c'est qu'il faut faire. Donc, il faut agir. Et évidemment, avant d'agir, il faut réfléchir à ce qu'on va faire. Et ce livre décrit en 5 chapitres, étape par étape, ou chapitre par chapitre, les différentes les activités, actions que nous avons mis en œuvre chez nos clients, qu'on a expérimenté, les erreurs aussi qu'on a fait, qu'on a réussi à un tout petit peu changer pour que ça soit mieux. Et c'est d'apporter justement ces outils aux personnes, aux équipes qui veulent travailler, mais également à des indépendants ou à des futurs entrepreneurs qui veulent lancer leur propre activité.
Concrètement, les étapes pour innover de manière collaborative sont lesquelles ?
Les étapes qu'on décrit dans le livre, il y en a 5. Donc la première étape, c'est d'identifier, de définir le sujet sur lequel on va travailler. La deuxième étape, c'est la génération d'idées, donc l'idéation, ce qu'on appelle l'idéation. La troisième étape, c'est la définition, la décision de les idées qu'on a trouvées et de mettre ça dans un format qui soit communicable aux personnes concernées. La quatrième étape, c'est la planification des actions. Et la cinquième étape, c'est plutôt la gestion de quelque chose qu'on crée qui est nouveau. Parce que c'est une manière différente de travailler quand on crée quelque chose de nouveau que quand on produit quelque chose constamment.
La gestion collaborative, on en parle de plus en plus. Quelles sont ses limites ?
La gestion collaborative, quelles sont ses limites ?
Par exemple, on a l'impression que parfois il faut décider, il faut un leader qui est seul et qui donne les impulsions. Est-ce que travailler en collaboration, c'est perdre du temps ? Ça pourrait être une limite, par exemple ?
Le risque qu'on peut avoir, c'est de vouloir absolument mettre un décideur. Il faut un décideur, de quelqu'un qui donne la direction, qui a l'expérience sur le sujet. Et on présente dans le livre plutôt le rôle du facilitateur, c'est-à-dire la personne qui va faciliter, donc qui va accompagner l'équipe. Et le risque qu'on peut avoir avec ces approches qui sont alors pas si nouvelles, mais quand même pas très courantes, la tendance de vouloir le faire d'une manière semblante. C'est-à-dire, c'est le culte du cargo, hein, on en parle dans le livre. On imite quelque chose qui n'est pas complètement la réalité. Donc je pense que la meilleure chose, c'est de s'approprier ces outils, ces approches, et le mettre dans son propre contexte, et pas faire un style exprès ou exagéré.
Un copier-coller, quelque chose qui n'est pas adapté.
C'est ça, ne pas copier-coller, mais plutôt copier, adapter, coller.
C'est Data Diamond, je vois que vous n'avez pas de montre, vous pouvez vivre sans ?
Alors oui, parce que l'outil qui m'intéresse le plus, c'est... Alors j'ai reçu des montres par des clients, mais que je ne mets pas. Par contre, ce que j'utilise le plus, vous imaginez bien, en écrivant un livre, c'est plutôt un stylo. Donc j'utilise plutôt un stylo qui me tient beaucoup à cœur, et dont je ne dirais pas la marque, à part si... Le sponsor est derrière.
Il ne l'est pas.
Il ne l'est pas, alors on ne va pas dire la marque, mais le stylo est vraiment magnifique.
On n'a pas encore de chronique sur les stylos dans Sortie de boîte. Par contre, on a quand même une chronique horlogère, donc c'est l'heure de cette chronique. Marie-Lise Saillard.
Pile à l'heure. Extra. Excuse me, sir, mais j'entends plus Big Ben qui sonne.
Mais nous non plus, Laurent, nous n'entendons plus Big Ben qui sonne. C'est comme ça depuis lundi à midi et ça doit durer 4 ans. Drame au pays du pudding et du chapeau melon, tempête dans une tasse de thé. Parmi le millier de personnes réunies au pied du palais de Westminster à Londres, lundi, pour le dernier carillon, on a même vu un député pleurer. Alors croyez-moi, la décision n'a pas été prise à la légère, mais des travaux urgents doivent être réalisés dans la tour horloge, baptisée Tour Elisabeth. Du coup, le retentissant carillon est arrêté. Big Ben, c'est le nom de la cloche en référence à l'architecte qui a ordonné sa fonte. Benjamin Hall était surnommé Ben, il était très grand, on l'appelait Big Ben, et hop, on a fait pareil pour la cloche. Cette cloche de 13 tonnes et demie va rester en place pendant les travaux. L'horloge de la tour date de 1859. Elle va être entièrement démontée. Chacune des pièces du mouvement du mécanisme victorien doit être nettoyée et certaines doivent subir des réparations. Je parle d'une horloge au singulier pour le mécanisme, mais il y a bien 4 cadrans de 7 mètres de diamètre qui sont placés sur chacune des faces de la tour. Si vous voulez vous fâcher avec un Anglais, vous pouvez lui rappeler cet épisode. Dans la nuit du Nouvel An 1962, les aiguilles de la grande horloge de Westminster affichaient 10 minutes de retard, la faute à un problème technique. Mais il faut bien reconnaître qu'à part ça, cette horloge est très fiable. Même les bombardements allemands pendant la Seconde Guerre mondiale n'ont pas réussi à perturber sa légendaire ponctualité. Aujourd'hui encore, d'anciennes pièces d'un penny sont utilisées pour s'assurer que l'horloge reste juste. Quand on ajoute un penny au mécanisme du pendule, il gagne 2 cinquièmes de seconde par jour. Inversement, enlever du poids permet de ralentir l'horloge. Qu'on se rassure, l'horloge va continuer de fonctionner pendant les travaux grâce à un mécanisme de substitution et le public pourra toujours voir au moins un de ces 4 cadrans. Alors certes, la sonnerie aurait pu être maintenue 4 fois par heure pendant la rénovation de la tour, mais on a pensé aux oreilles des ouvriers. Parce que ce n'est pas terrible pour soigner son audition de se prendre en pleine poire les 120 décibels de Big Ben.
Pile à l'heure. Pile à l'heure que vous pouvez retrouver sur notre site internet, ainsi que l'intégralité de cet entretien que nous avons eu avec vous ce soir, Sedat Adiyaman, fondateur de Think2Make, du coworking à Neuchâtel et auteur de l'ouvrage Faire, comment innover de façon collaborative. On va mettre les liens vers tout ça sur notre site internet. Vous avez 30 ans déjà, tous ces projets derrière vous. C'est quoi vos projets pour la suite?
Demain, je pars pour la Californie. C'est un projet qui me tenait à cœur depuis un bout de temps. Et vous imaginez bien qu'on entend déjà un peu parler dans les médias, la Californie, la Mecque de l'innovation, enfin bref. Mais en dehors de ça, il y a également plein d'autres choses à faire. Je pars pour 2 semaines en voyage là-bas.
Vous allez faire quoi ?
Travailler, rencontrer des auteurs, rencontrer des entrepreneurs et également faire la fête.
Alors, on vous souhaite de bonnes vacances ?
Oui. Et puis, suivez-nous sur les différents réseaux sociaux pour recevoir des informations. On publiera pendant notre voyage, avant, après, des infos de ce qui se passe à la manufacture d'idées Think2Make, au coworking et le livre Faire également.
Sortie de boîte s'arrête ici. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Bonne soirée.
Bonne soirée à vous, Cédric.
Et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Très bonne soirée à toutes et à tous.